Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC et à la télé, Canal 23, RMC Story. Ce matin, on vous dévoile en exclusivité ce rapport sur l'état du sexisme en France et les chiffres sont très inquiétants. On a vraiment l'impression d'un grand retour en arrière. Une radicalisation misogyne en France, une haine des femmes, l'idée à nouveau que les femmes, ce serait peut-être mieux à la maison. C'est ce que nous dira la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle nous dévoilera son rapport. Elle sera dans ce studio à 7h10. Mais j'attends surtout vos réactions, vos témoignages. Est-ce que vous le voyez monter, ce retour en arrière, rétrograde, misogyne? Est-ce que vous l'avez constaté autour de vous? Est-ce que vous le partagez aussi? Tiens, effectivement, il faut quand même entendre aussi ces hommes-là qui font monter ces tendances-là. On l'a entendu avec Ali tout à l'heure au 32-16. N'hésitez pas à venir réagir. 32-16 donc. Et puis le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Et puis, est-ce que la guerre commerciale est déclarée entre l'Europe et les États-Unis? Emmanuel Macron dénonce une concurrence américaine pour affaiblir et subordonner l'Europe. C'est les mots du chef de l'État qui sont quand même très puissants. Donald Trump, lui répondra puisqu'il sera cet après-midi à Davos pour le forum économique. À 7h40, le directeur de l'Institut français des relations internationales sera l'invité d'Apolline Matin. Qui contrôle qui? Voilà la question qu'il pose dans son nouveau livre. Et honnêtement, il montre aussi le côté un peu parrain de la mafia de Donald Trump. À 8h30, justement, un homme qui désormais n'a plus le droit de se rendre aux États-Unis, l'ancien ministre de l'économie, Thierry Breton, ancien commissaire européen, bien sûr. Il répondra donc à mes questions à 8h30. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo. Géraldine, forte pluie dans le nord-ouest.
Ouais, on va surveiller particulièrement la Bretagne avec cette vigilance orange sur le Finistère et le Morbihan. Vigilance orange pour les fortes pluies aujourd'hui. Et également pour les crues de l'Audet et de la Laïta. Alors, il va beaucoup pleuvoir sur la Bretagne, sur les pays de la Loire, sur la Normandie, également vers le centre, le Poitou-Charente, jusqu'à l'Île-de-France pour ce soir. En allant vers l'est, on aura un temps beaucoup plus calme et même plus ensoleillé. Les températures toujours très contrastées. Il fait froid dans le nord-est, il fait doux ailleurs. Cet après-midi, on aura 3 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Lyon, 12 à Bordeaux, 13 à Paris ou encore 14 à Marseille.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La loi des séries en Espagne. Un nouveau drame ferroviaire fait un mort et 4 blessés graves en Catalogne. 2 jours après un premier accident qui a coûté la vie à 42 personnes. Donald Trump attendu à Davos en plein bras de fer avec Emmanuel Macron. Le président américain doit s'exprimer au forum économique devant les leaders européens. Et la sale soirée des clubs français en Ligue des Champions. Paris battu à Lisbonne 2-1 face au Sporting. Monaco s'écroule face au Real Madrid 6-1 ce soir. L'OM reçoit Liverpool.
Nouvel accident ferroviaire en Espagne.
En pleine période de deuil national de 3 jours après la collision entre 2 trains qui a fait dimanche soir 42 morts en Andalousie. Un nouvel accident de train a fait 1 mort et 40 de blessés. Hier soir, Rachel Sadodine, vous êtes l'envoyée spéciale RMC en Espagne. Ça s'est passé en Catalogne, à l'ouest de Barcelone.
Oui, c'est un train de banlieue, l'équivalent d'un RER français et non pas un train à grande vitesse comme en Andalousie qui a déraillé juste après 21h à hauteur de la commune de Gélida. Le train se heurte avec violence avec les débris d'un mur de soutènement, c'est-à-dire un mur de protection qui s'est effondré sur les voies. Un accident causé par les fortes pluies qui balayent en ce moment la Catalogne, selon Adif, le gestionnaire du réseau ferroviaire national ici en Espagne. Les précipitations auraient fragilisé le mur causant sa chute dans le choc. La voiture de tête est totalement pliée, tordue. Les 70 pompiers dépêchés sur place peinent à extraire tous les passagers. Un hôpital de campagne a été installé pour prendre en charge les 37 blessés. 4 sont dans un état grave. Le conducteur du train n'a pas survécu à la collision.
Rachel Sadodine, envoyée spéciale ce matin en Espagne en direct. Vous verrez jusqu'où je peux aller. Réponse de Donald Trump à un journaliste hier au sujet du Groenland, toujours aussi menaçant. Le sujet sera sur la table de plusieurs réunions ce mercredi au Forum économique de Davos en Suisse. Le président américain y est attendu pour un discours devant le patron de l'OTAN et les dirigeants européens. Prise de parole qui aura un peu de retard en raison d'un contretemps. Romain Houg, l'avion de Donald Trump a dû faire demi-tour cette nuit en raison d'un problème technique.
Oui, et plus précisément d'un problème électrique mineur. heure, nous dit la Maison Blanche. Selon des journalistes présents à bord de l'appareil, les lumières en cabine se seraient soudainement et brièvement éteintes quelques instants après le décollage. Demi-tour immédiat de l'avion présidentiel par mesure de précaution. Il est retourné à la base d'Andrews à Washington. Finalement, Donald Trump a pu redécoller en direction de Davos, mais dans un autre avion et avec 2h30 de retard, ce qui risque forcément de chambouler un peu son programme sur place, peut-être décaler son discours très attendu dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles. En tout cas, voilà qui va donner de l'eau au moulin de Donald Trump, qui a déjà exprimé son mécontentement quant à la vétusté d'Air Force One, entrée en service au début des années 90.
Et Donald Trump qui pourrait bien revenir sur la suspension par le Parlement européen du processus de ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis conclu l'été dernier. Première riposte aux menaces du président américain, d'autres pourraient suivre. Le sujet sera évoqué demain soir à Bruxelles. Les deux motions de censure RN et LFI contre le gouvernement seront bien débattues vendredi après le déclenchement du 49-3 hier par le Premier ministre sur la partie recette du budget de l'État pour l'année en cours. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, est avec nous ce matin. Un budget, des concessions accordées aux socialistes notamment qu'il va falloir financer. Tout le monde va devoir serrer la ceinture, c'est ce que dit Sébastien, le Premier ministre, dans une lettre envoyée aux parlementaires.
Oui, et ce sera dur, prévient Sébastien Lecornu dans ce courrier où il détaille son budget, celui qui sera donc soumis au 49-3. En clair, d'un côté, le gouvernement renonce à augmenter les impôts sur les ménages, mais de l'autre, il met l'administration au régime sec. Le détail sera transmis au Parlement vendredi, mais on sait déjà qu'en dehors du régalien, les armées, l'intérieur, la justice, aucun ministère n'y échappera. Il faudra tailler dans les dépenses de fonctionnement. Pour la première fois, écrit Sébastien Lecornu, les dépenses des ministères en euros courants seront inférieures à celles de l'an dernier. Cela vaut aussi pour les agences, pour les collectivités, amputées de 2 milliards à Matignon. On s'attend d'ailleurs à ce que ça tangue dans les semaines qui viennent lorsque le détail des coups de drapeau apparaîtra au grand jour. Je ne donne pas un mois avant que tout le monde râle sur sa subvention, craint un proche du Premier ministre. À ses visiteurs, Sébastien Lecornu répète qu'il n'a aucun doute que le déficit à 5% sera tenu, au prix donc de cette gestion hyper rigoureuse.
Sébastien Krebs, chef du service politique RMC. Les eurodéputés sont appelés à se prononcer aujourd'hui à Strasbourg sur une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne après la signature de l'accord avec les pays du Mercosur, objet d'une grande manifestation d'agriculteurs hier devant le Parlement européen.
7h05 sur RMC. Marine Le Pen, entendue à nouveau à la barre de son procès en appel.
Dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, elle sera entendue ce matin à 9h après 4 heures d'audition. Hier, la patronne des députés RN à l'Assemblée nationale a continué de nier les faits qui lui sont reprochés. Guillaume Bier, chef du service police-justice RMC, vous avez suivi l'audience. Et ce qu'il en ressort, c'est que Marine Le Pen n'a pas fait de démonstration éclatante de son innocence.
Ouais, la chef de file du RN qui peine à convaincre la présidente de la cour d'appel. Pourtant, Marine Le Pen s'efforce de se contenir, de masquer son agacement. Elle répète trois fois qu'elle conteste formellement l'existence d'un système organisé de détournement des fonds européens. Le problème pour elle, c'est qu'à chacune de ses réponses ou presque, la juge cite un élément de preuve à minima contradictoire, voire compromettant. Comme ce courriel de 2014 d'un nouvel élu qui dénonce auprès du trésorier du FN ce qu'il qualifie d'emploi fictif, lequel trésorier lui répond « Je crois bien que Marine sait tout ça. Je n'étais pas destinataire de ce mail », rétorque l'ex-présidente du RN. Si je l'avais reçu, j'aurais demandé des explications. Des réponses qui laissent dubitative la présidente de la cour d'appel face aux nombreux indices. C'est quand même curieux, conclut-elle, on ne peut pas dire autre chose.
Des prisons, hôpitaux, volonté de Gérald Darmanin, AMC vous le révélait dès hier, le ministre de la Justice veut mettre en place des structures afin d'y incarcérer des détenus atteints de troubles psychiatriques lourds. Et vous nous expliquez, Solène Leroux, comment ça va se passer?
L'idée est de s'adapter à la réalité de la santé mentale en prison. On estime que 20 à 25% des détenus en France ont des troubles psychologiques. Aujourd'hui, une prison accueille déjà plusieurs d'entre eux, celle de Château-Thierry dans l'Aisne. Le secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice, Wilfried Funk, explique à quoi ça ressemble.
Ça reste une prison, mais où il y a un partage de la prise en charge de la population pénale entre l'administration pénitentiaire et, pour ce qui est volé purement prise en charge médicale, par le ministère de la Santé.
Gérald Darmanin ne cache pas sa volonté de voir plusieurs prisons-hôpitaux se créer à l'avenir. Il veut lancer la première d'ici 9 mois. Reste plusieurs questions. Quel site sera choisi? Combien de détenus y seront accueillis? Seule certitude, les prisonniers seront sélectionnés par des médecins parmi les profils les plus dangereux et les pathologies les plus lourdes.
Le PSG piégé à Lisbonne.
Battu hier soir en Ligue des Champions 2-1 face au Sporting Portugal, malgré une très large domination, les Parisiens encaissent un but fatal en toute fin de match, Arthur Perrault.
Oui, face aux médias juste après le match, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, apparaît le visage fermé et tente d'expliquer l'inexplicable.
On a perdu parce que c'est football de merde, merde en espagnol, de merde. Et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport est peut-être est aussi injuste. J'ai perdu beaucoup de fois dans cette manière. Je suis habitué à ça et c'est frustrant.
3 buts annulés, 28 tirs au total et 75% de possession de balles. Une domination stérile du PSG qui rappelle ses difficultés de la saison dernière au même moment. Le capitaine parisien Marquinhos.
Le foot il est comme ça, mais si on n'est pas efficace devant et derrière, je pense que le résultat ça peut finir comme ça. C'est des choses qu'on a réussi à améliorer l'année dernière dans ce moment de la compétition et c'est à nous maintenant de travailler ça pour améliorer ce qu'on doit améliorer.
Paris devra patienter jusqu'à sa dernière rencontre de phase de Ligue mercredi prochain face à Newcastle pour assurer sa place en 8e de finale de Ligue des Champions.
Et pour Monaco, l'enjeu, c'est de se qualifier pour les barrages. Ils sont 20e ce matin après leur lourde défaite 6-1 hier soir face au Real Madrid. Mbappé a marqué par deux fois. On espère que l'OM fera mieux ce soir face à Liverpool 21h sur RMC. Plus de 3000 supporters anglais ont fait le déplacement à Marseille sous stricte surveillance.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC.
Il y a... RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il y a une montée des discours masculinistes en France. Les femmes à la maison, les femmes inférieures aux hommes. Voilà ce que nous apprend un rapport que RMC nous vous dévoile en exclusivité ce matin. Ce type de discours qui fleurissent désormais. Bonjour Bérangère Couillard.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vous qui êtes à l'origine de cette étude. Elle est hallucinante. Et cette radicalisation misogyne, vous dites même qu'elle est une menace, y compris pour la sécurité. C'est votre parti pris dans un instant, vous nous le dites. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, réagissez, vous nous appelez au 3216. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC, RMC la radio, RMC Story la télé, canal 23. Le sexisme redevient banal en France. C'est ce qui ressort du rapport que vous nous dévoilez ce matin. Bérangère Couillard, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une radicalisation misogyne qui peut même basculer en violence non seulement verbale mais aussi physique contre les femmes. De quoi parlez-vous ?
En fait, nous sommes conscients au Conseil d'égalité, après toutes ces études menées, que la radicalisation masculiniste peut devenir une menace pour la sécurité publique.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire concrètement qu'il peut y avoir une forme de radicalisation du sexisme qui amène à un passage à l'acte et également à banaliser les violences les plus extrêmes jusqu'à l'apologie du viol ou du meurtre.
On a l'impression d'un retour en arrière tragique, effectivement que l'on n'avait pas forcément vu venir, qui revient à bas bruit et vous voulez alerter ce matin en disant attention, c'est un phénomène massif. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs, la semaine dernière je recevais sur BFM TV Marlène Schiappa, une de vos prédécessrices y compris au ministère sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle publie un livre qui s'appelle La Machosphère,
oui.
Et elle parle au fond de contenu masculiniste et islamiste. Elle parle en quelque sorte des deux côtés du spectre. D'un côté, des hommes virilistes, Monsieur Muscle. De l'autre côté, un retour traditionnel, religieux, où la femme doit rester absolument à la maison et uniquement s'occuper des enfants. Et au fond, ça enserre, ça enferme les femmes à nouveau dans un modèle rétrograde.
Alors en fait, ce serait simple si le masculiniste était homogène. Malheureusement, il y a différents types de masculinistes. Et il y a en effet des radicaux qui, eux, sont plutôt croyants, proches de l'extrême droite, qui vont prôner un retour aux valeurs anciennes et considérer que, du coup, la crise du masculinisme est due à la modernité. Alors que il y a d'autres formes, notamment les plus radicaux, qui sont plutôt les incels, qui eux sont ce qu'on appelle les célibataires involontaires, c'est-à-dire qui considèrent être célibataires parce que les femmes ne veulent pas d'eux et que parce que en fait les femmes ne les désirent pas, et ils développent une haine très forte envers les femmes.
Il y a d'ailleurs eu une arrestation en juin 2025 en France d'un lycéen de 18 ans à Saint-Étienne qui projetait des attentats contre les femmes. Aux États-Unis, il y a eu des meurtres de masse contre les femmes, oui, de ce que vous appelez les incels.
Exactement, et c'est pour ça que nous appelons à la plus grande vigilance, avec notamment le numérique qui est aujourd'hui un amplificateur, c'est-à-dire qu'il y a, faut savoir quand même que la première des violences, c'est le cybersexisme. Et que c'est les victimes, ce sont 84% des femmes. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une menace aussi parce que nous avons de plus en plus de contenus haineux et qu'il y a un business de la haine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plateformes n'ont aucune raison d'aller modérer un certain nombre de contenus.
Au contraire, ça les arrange presque.
Bien sûr,
c'est-à-dire qu'il y a une complicité des algorithmes
bien sûr.
À aller de plus en plus vers l'extrême entre les hommes et les femmes, de plus en plus séparés. On va accueillir tout de suite Trévis qui nous appelle de Louviers dans l'Eure. Bonjour Trévis.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes chauffeur poids lourd. Vous vouliez réagir à cela. Vous vous situez comment sur cette question-là?
En fait, moi, pour moi, on se trompe de combat parce que, pour moi, il n'y a pas d'égalité. C'est même pas l'égalité. Pour moi, le problème, c'est plus l'équité, le manque d'équité.
C'est-à-dire
Le salaire, par exemple, c'est pas vraiment de l'égalité, c'est plus de l'équité. Il faut être équitable en termes de salaire. Si on fait le même travail, les femmes doivent pouvoir gagner pareil que les hommes.
Oui.
Après, pour moi, le féminisme actuel, ils veulent pas l'égalité. Pour moi, ils veulent passer devant.
Vous avez l'impression que le féminisme aujourd'hui, et c'est une des questions qui est posée dans votre rapport, hein, Madame Couillard, c'est que les féministes sont vus par une partie de plus en plus nombreuse de la population aujourd'hui, y compris des femmes, comme étant presque dans une forme de revanche. C'est un peu comme ça que vous le dites?
C'est complètement ça. Je veux dire, quand on les entend parler par un moment, elles le disent elles-mêmes, hein, on n'a pas besoin des hommes, machin, alors qu'en fait, moi, si vous voulez, avec ma compagne, moi, j'ai besoin d'elle autant qu'elle a besoin de moi. Et pourtant, on n'est pas égaux à proprement parler. Une femme, ça va être plus fragile qu'un homme, ça va être plus sensible, ça va être moins fort physiquement. Après, on peut pas être égaux. Pour moi, c'est de l'équité. Faut vraiment être... voilà.
Qu'est-ce qu'elle dit, votre compagne, quand vous lui dites ça?
Oh, elle est d'accord avec moi.
Elle est d'accord avec vous. C'est intéressant parce que ça, Mathieu, il y a de nombreux messages aussi qui pointent quand même le féminisme comme étant désormais presque l'ennemi.
Mais ce qu'on appelle aussi le backlash, quoi, le retour de bâton. Beaucoup de messages nous disent il y a eu trop de féminisme, c'est pour ça il y a eu la coupe est pleine, quoi.
Est-ce qu'on peut dire comme ça, est-ce qu'il n'y a pas cette question-là, la femme est plus fragile? On vous a beaucoup demandé, hein, d'ailleurs, à vous, les hommes, pendant longtemps, de nous protéger. Peut-être qu'il y avait aussi cette idée-là. Aujourd'hui, est-ce que quand on dit ça, on ne crée pas de fait une forme d'infériorité?
En fait, c'est ce qu'on appelle le sexisme paternaliste. C'est celui le plus répandu dans la société, qui est socialement très bien accepté. C'est-à-dire de penser qu'il est bienveillant, qu'il est protecteur, alors qu'en fait, il entérine le fait qu'il y a une domination masculine. À partir du moment où, en fait, la société, les trois quarts des Français pensent qu'une femme a besoin d'être protégée par un homme.
Mais quand vous dites les trois quarts des Français, ça veut dire y compris les femmes?
Bien sûr. Bien sûr, mais parce que nous sommes dans une société qui est globalement sexiste et qui, du coup, fait qu'il est rassurant pour les hommes comme pour les femmes, de penser que la société, elle est telle qu'elle et qu'elle doit rester telle qu'elle. Le changement fait peur. Et aussi, la forme de radicalité que peuvent avoir certaines activistes peut aussi, du coup, effrayer un certain nombre. J'en suis bien sûr consciente.
Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité d'un radicalisme féministe de l'autre côté? Est-ce que vous diriez cela?
Je ne le crois pas, parce qu'en fait, c'est aussi parce que certaines sont radicales qu'on arrive à obtenir un certain nombre de choses. Par contre...
Enfin, là, on est plutôt dans un retour en arrière, mais on obtient plutôt l'inverse.
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'au Conseil de l'égalité, on voit quand même que 80% des Français sont toujours favorables à des politiques en faveur de l'égalité, de l'équité. On l'appelle
d'ailleurs,
comme on
Trévis,
veut.
Vous, vous dites... il faut qu'une femme et un homme gagnent pareil. Ça, pour le coup, c'est clair et net pour vous.
Ça, complètement. C'est même dingue que ce ne soit pas déjà le cas.
Ouais. Et c'est pour ça que les combats des féministes, parfois, est regardé un peu avec méfiance. Alors qu'en fait, le féminisme, c'est quoi? C'est simplement atteindre l'égalité, l'équité, on l'appelle comme on veut. Mais le masculinisme, par contre, c'est vraiment de promouvoir... la supériorité des hommes
physique
et aussi bien sûr dans tous les pans de la société pour continuer à dominer les femmes. Donc c'est tout autre. C'est considérer que le mâle est dominant et que il doit rester dominant, alors que les féministes dans leur ensemble, j'en fais partie, et donc du coup moi je prône simplement l'équité, l'égalité entre les femmes et les hommes, et on en est loin.
Merci beaucoup Bérangère Couillard d'être venue donc alerter ce matin, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci aussi à Trévis, c'est important aussi d'entendre effectivement toutes les sensibilités qu'elles puissent s'exprimer, même si effectivement il faut être extrêmement conscient des dérives. Oui. pernicieuse, je dirais, et c'est aussi ce que vous pointez du doigt, Bérangère Couillard. Je vous attends au 32-16, vous aussi. N'hésitez pas à réagir, on continue à en débattre ce matin. 7h20, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Donald Trump doit prononcer cet après-midi un discours au Forum économique de Davos. C'est quoi Davos d'ailleurs ?
Eh bien à l'origine, c'est une bourgade suisse où on soignait les tuberculeux. Aujourd'hui, c'est devenu le club de tous les puissants où on change le cours du monde.
Vous nous en tracez l'histoire dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui arrive. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story quand l'histoire éclaire notre actualité comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, Donald Trump va se rendre donc tout à l'heure à Davos en Suisse où il doit prendre la parole. C'est la réunion annuelle où se retrouvent tous les puissants du monde.
Oui, Davos c'est le forum de tous les chefs, hein, les chefs d'État, les chefs d'entreprise. Cette édition est évidemment très attendue dans un contexte tendu entre les États-Unis et l'Union européenne. Davos, ça fait partie des rares lieux où on prend des décisions qui ont un impact mondial.
Mais alors Davos d'abord c'est où ?
Alors, à l'origine, Davos, c'est un village suisse perché à 1500 mètres de hauteur dans les Alpes orientales. Alors, a priori, rien de passionnant, sauf que, au 19e siècle, un médecin allemand qui s'appelait Alexandre Spengler va changer le destin de Davos. Il va faire de cette petite bourgade peuplée de vaches un haut lieu des soins contre la tuberculose grâce à des méthodes révolutionnaires. Et ces méthodes, Apolline, les voici. Alors, il fallait faire beaucoup de promenades. Bon, ça, ok. Boire 3 litres de lait par jour et le meilleur, se faire masser avec de la graisse de marmotte.
De la graisse de marmotte, ça fonctionnait ?
Oui, ça fonctionnait très bien, à tel point que Davos va attirer plein d'investisseurs et la ville va prospérer. Toute l'élite européenne vient se faire soigner là-bas. Cette success story médicale, entre guillemets, va contribuer à faire connaître la ville dans le monde entier.
Quand est-ce que ça devient un forum économique tel qu'on le connaît aujourd'hui ?
Alors, la première édition a lieu en 1971 et c'était l'idée d'un professeur d'économie allemand, une fois de plus, qui s'appelle Klaus Schwab. À l'origine, c'était seulement un rendez-vous pour les chefs d'entreprise européens. D'ailleurs, le premier nom, c'était le Symposium européen du management.
Le Symposium européen du management. Quand est-ce que ça devient un événement y compris politique?
Et bah très vite, hein, 2 ans plus tard, en 1974, c'est la première édition où on invite des personnalités politiques, et pas seulement européennes, hein, y avait des Américains, des Chinois, et dans les années 80, ça devient the place to be pour les puissants du monde entier.
On a aussi prononcé là-bas des discours historiques.
Oui, à commencer par les Américains, en 1980, c'est à Davos que Ronald Reagan annonce le tournant ultra-libéral des États-Unis. Et voilà ce qu'il disait, je cite, « Les droits de douane protectionnistes ne fonctionnent pas », fin de citation. Et il promettait aussi aux Européens de les protéger, je cite, « dans un esprit d'égalité et de confiance ». Voilà, 66 ans plus tard, les choses ont bien changé.
Et les choses ont bien changé et on le verra encore cet après-midi avec Donald Trump qui est en chemin. Il est 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure, je reçois l'ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, Thierry Breton.
Grande idée, bravo. Faut pas faire ça, faut l'annuler. Vous ne recevez pas Thierry Breton, vous recevez l'ennemi personnel de Donald Trump. Parce que l'administration américaine l'a interdit de séjour aux États-Unis parce qu'il a contribué à réglementer les GAFA en Europe. Donc la Delta Force va débouler dans nos studios à 8h30. Freeze, motherfucker! Je vous arrête, Mr. Breton, vous et votre femme. Je ne suis pas sa femme, je suis Apolline de Malherbe. Il y aura le pauvre Alain Bauer avec sa moustache. C'est vrai, c'est pas sa femme, c'est la mienne. Guys, on a un moustachu comme Maduro, embarquez-le. Alors Trump va nous envoyer un drone. Alors si Donald Trump nous écoute... Oh yes, je vous écoute. I love Apolline Morning, I love Matthew Belliard, Arthur Knight, Geraldine of the Champignon des Bois, the Marie. Bon bah si vous nous écoutez, l'adresse de nos studios c'est Maison de la Radio, 116 avenue du Président
Kennedy. Radio France.
Paris 16e. Thierry Breton nous parlera du forum de Davos, comme Arthur Chevalier. Hier, Emmanuel Macron a donné un discours devant l'élite mondiale avec ses lunettes miroirs à la Tom Cruise. Parce qu'il a toujours son orgelet, c'était classe. Aujourd'hui, il va nous sortir le blouson de cuir et les Santiago à la réunion avec Trump et a posé ses pieds sur le bureau.
Attends Donald, tu vas te calmer sur le Groenland, sinon t'as ta gueule, t'as ton économie, toi tu me fous l'Islande puis t'as rien à foutre dans mon monde. Et casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre.
Et il va lui planter un cran d'arène dans la main avant de se recoiffer la banane avec le peigne dans le slip. Une bagarre à coups de chaîne de vélo. Thierry Breton nous parlera de cette menace du président américain de taxer les vins et le champagne français à 200%.
Enfin, je pense qu'il en parlera. Sinon, c'est le seul Breton qui s'en fout de l'alcool. D'ailleurs, en plus, il devrait être dans un bel état, Thierry Breton. C'est la fête pour lui. 3 jours de teuf, là, j'imagine, parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, car on ne le sait pas, mais Thierry Breton est sénégalais. Vous le saviez, ça? Il a la nationalité sénégalaise. On le sait pas. C'est vrai que ça se voit pas.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est sénégalais.
Déjà que Trump l'aime pas, tant mieux pour lui d'ailleurs. Trump l'aime pas parce que si en plus il apprend qu'il est africain, il va finir à Guantanamo. Ça va mal se mettre. Pour l'instant, il va finir chez vous. C'est à 8h30. Soyez prudente, Apolline.
Oui, oui. Alerte. Je vais faire très, très attention. Il est 7h26. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et justement, après le journal, un des plus meilleurs spécialistes aujourd'hui de Donald Trump et des relations avec les États-Unis, il décrit Donald Trump avec un comportement presque de mafieux. Et honnêtement, c'est un peu ce qu'on se dit. Il est 7h27, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les ZFE ont du plomb dans l'aile. Députés et sénateurs se sont mis d'accord pour supprimer ces zones à faible émission. Vote final au Parlement la semaine prochaine. Vers un nouveau scandale sanitaire en France, une enquête judiciaire a été ouverte après le décès suspect d'un bébé qui a consommé l'un des laits Nestlé qui fait l'objet d'une vaste campagne de rappel. Et puis la terrible loi des séries en Espagne avec un nouvel accident ferroviaire hier soir en Catalogne. Il a fait un mort et 4 blessés graves.
Les ZFE pourraient déjà disparaître de nos villes.
Qu'elles soient à l'état de projet ou déjà en place comme à Lyon ou à Paris, députés et sénateurs ont voté leur suppression hier en commission mixte paritaire. Les zones à faible émission restreignent la circulation des véhicules les plus polluants et elles sont donc plus que jamais menacées. Mais il reste tout de même 2 ultimes étapes à passer, Amélie Courté.
Oui, 2 scrutins sont prévus la semaine prochaine, mardi à l'Assemblée, jeudi au Sénat, pour valider ou non la suppression des ZFE, un parcours législatif à l'issue encore incertaine. Mais Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes se réjouit déjà après l'accord trouvé en commission.
C'est une bonne nouvelle, c'est un bel enterrement. Quelquefois, l'intention est bonne, la mesure est injuste. Le parc n'a pas cessé de vieillir, on a des Français qui ne peuvent pas changer leur voiture.
Depuis 2019, une 20aine de villes ont mis en place ces ZFE, dont Paris, Lyon, Grenoble. Noble objectif, limiter les émissions de particules fines responsables de maladies respiratoires et de 40 000 décès par an selon Santé publique France. Alors Tony Renucci, directeur de l'association Respire, alerte.
C'est une décision, un vote qui est très dangereux pour la santé publique des Français. Je pense que ceux qui l'ont prise ne mesurent pas à quel point l'urgence sanitaire est là. Même si la qualité de l'air s'améliore et progresse, elle reste encore mauvaise.
Même s'il reconnaît que le dispositif n'est pas parfait, avec des règles différentes selon les territoires et beaucoup de confusion dans la mise en application des ZFE.
Nouveau rebondissement dans l'affaire des laits infantiles Nestlé, Guigos et Nidal qui font l'objet d'un rappel massif. On vous en parlait hier sur RMC dans 60aine de pays, dont la France. La France où une enquête judiciaire vient d'être ouverte après le décès d'un bébé qui a consommé ce lait, Romain Hougue.
Oui, le nourrisson présentait des symptômes similaires à ceux d'une infection à la céréulide. C'est une toxine fabriquée par une bactérie. Bactérie qui a été retrouvée dans de l'huile qu'utilise Nestlé pour fabriquer du lait infantile. Elle provoque des diarrhées, des vomissements. Des analyses épidémiologiques et alimentaires sont en cours, mais à ce stade, le lien entre le décès de ce nourrisson et l'infection à la céréulide n'est pas encore établi, précise le ministère de la Santé. Nestlé, de son côté, indique n'avoir aucun cas confirmé en lien direct avec les produits concernés à ce jour. D'autres fabricants ayant recours au même fournisseur pourraient aussi être concernés. En attendant, si vous avez acheté dernièrement du lait infantile des marques Guigos et Nidal, le mieux, c'est de vous rendre sur le site de Nestlé, vérifiez que votre lot n'est pas concerné. Et puis, si votre enfant présente des symptômes, il faut consulter rapidement un médecin.
Les précisions de Romain Hougue pour RMC. En plein deuil national, une nouvelle catastrophe ferroviaire en Espagne après la collision de 2 trains qui a fait 42 morts dimanche en Andalousie. C'est à Gélida, dans la région de Barcelone, qu'un nouvel accident a eu lieu hier soir. 4 personnes ont été grièvement blessées. Et selon les médias locaux, le conducteur de ce train de banlieue serait mort après avoir heurté un mur tombé sur les voies. Un nouvel épisode qui ravive les plaies des victimes et de leurs familles. À Aljarac, petit village andalou à côté de Huelva, tous les habitants sont sous le choc. C'est ici que vivait l'une des familles décimées par ce drame, Rachel Sadodine.
Penché à son balcon, Juana fixe l'œil humide, la maison de ses voisins, parents et grands-parents des victimes.
Ils ont perdu leur fils, leur belle-fille, petit-fils et l'autre petit-fils. La petite fille, c'est la seule vivante.
Retrouvée seule, perdue au milieu des carcasses métalliques, la petite fille, désormais orpheline, revenait de Madrid, où la famille avait passé le week-end.
Ils étaient à Madrid pour voir le Roi Lion et un match du Real.
À l'annonce de la catastrophe, Mosine, un proche du grand-père, a entendu son voisin s'effondrer devant sa télévision.
J'étais chez moi et je l'ai entendu pleurer. C'est pour ça que j'ai dû descendre pour le réconforter un peu. Il était anéanti, il pleurait.
Parti à Cordoue pour s'occuper de leur petite fille, les grands-parents ne sont pas encore rentrés chez eux, mais Encarné, ami de longue date, prévoit déjà de les aider de son mieux.
De toutes les manières possibles, en les encourageant beaucoup, en tenant compagnie à leur mère.
Dans le village, le nom de la famille endeuillée, Zamorano, est sur toutes les lèvres. Sur le fronton de la mairie, tous les drapeaux ont été mis en berne.
Un reportage de notre envoyé spécial en Espagne, Rachel Sadodine. La France hausse le ton ce matin à quelques heures de l'arrivée de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos, où il sera forcément question du Groenland que le président américain veut annexer. Paris réclame ce matin à l'OTAN de contribuer à l'exercice militaire européen déployé en fin de semaine dernière sur le territoire danois. Il est 7h35 sur RMC et c'est un coup de tonnerre dans le monde du rugby, alors que Fabien Galthié doit dévoiler aujourd'hui la composition de son 15 de France pour préparer le tournoi des 6 Nations. On apprend que le sélectionneur des Bleus a écarté plusieurs cadres et pas des moindres. Grégory Aldrit, Gaël Ficou et même Damien Penaud n'ont pas été appelés, Wilfried Templier.
Oui, à eux trois, ces joueurs représentent 215 sélections sous le maillot bleu. C'est dire les choix forts qu'a fait le sélectionneur Fabien Galthié à un an et demi de la Coupe du Monde en Australie. Qu'importe le statut, pour le consultant RMC Sport Denis Charvet, les meilleurs joueront.
C'est la concurrence qui est là, tout simplement, qui pousse à la porte. C'est les jeunes qui arrivent. Mais ça a toujours été comme ça en équipe de France. Il y a une logique que Fabien, il pousse maintenant les joueurs à la concurrence et dans l'optique de la Coupe du Monde. C'est normal, c'est logique.
Il n'empêche, écarté Penaud, le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France. Ficou, le joueur le plus capé en activité, et Aldrit, qui fut capitaine. Galthié abat une carte importante concernant la gestion de son groupe. Un choix assumé, selon l'ancien sélectionneur des Bleus, Philippe Saint-André.
C'est du management. Sincèrement, je pense qu'il a dû ou les rencontrer ou les avoir au téléphone. C'est des choix forts de Fabien Galthié. Mais quand tu es sélectionneur, tu dois faire des choix forts qui doivent coller à tes convictions.
Et c'est dès le premier match face à l'Irlande le 5 février prochain que l'on verra si ses convictions sont les bonnes.
En Ligue des Champions, défaite frustrante hier soir pour le PSG, battu 2-1 par le Sporting Portugal. Après une grosse domination, Paris devra donc attendre pour valider sa qualification en 8e de finale. De son côté, Monaco s'est fait humilier par le Real Madrid de Kylian Mbappé. Score final 6-1. Ce soir, c'est l'OM qui reçoit Liverpool au Vélodrome. Coup d'envoi à 21h à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 9, Easterman. L'outsider, c'est le 10, Gibus.
C'était le journal des listes d'Angean. 7h37, Annick est avec nous au 32-16. Bonjour Annick.
Bonjour, bonjour Annick. À toute l'équipe.
Eh bien bonjour à vous. Vous êtes déléguée pharmaceutique à Cassis, oui. Et vous vouliez réagir à ce retour en arrière, rétrograde, une vision de la femme.
Je fais des bonds depuis ce matin, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais comment on peut retourner dans les années années 50, 60, mais ce n'est pas possible. Vous savez, actuellement, j'ai une petite fille, ouais. Je lui lis, j'ai retrouvé des livres que j'avais de très très vieux, et en fait, dedans, il y a des histoires où justement, on parle la maman à la maison, à faire, et écoutez, tout ce passage-là, en fait, je lui change tout. Je lui change tout parce que je me dis mais c'est d'un autre temps, et là on est en train de revenir à ça, de vouloir nous simplement nous mettre à la maison à faire la popote et les enfants. Mais c'est une plaisanterie.
Mais vous savez, moi, ça me frappe énormément, Annick. Je trouve que il faut vraiment en parler parce que c'est assez sournois. Alors, c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les masculinistes ou les radicaux religieux de l'autre côté qui disent qu'en gros, la femme, elle doit rester à la maison, etc. Oui. Mais je trouve qu'il y a aussi une petite tendance chez les femmes à se dire, non, mais il faut faire des tartes aux pommes, se montrer sur Instagram, on s'occupe des enfants, on les allaite pendant 3 ans. Bah oui, mais alors comment on fait du coup pour bosser, hein?
Exactement.
On est aussi
Merci.
Et c'est pour ça que moi, dans mon message, je marquais c'est côté homme qui revendique ça. Mais je pense qu'il y a des femmes, sincèrement, qui laissent glisser les choses, quoi. Qui acceptent ça et qui ça leur convient.
Comment quoi. Voilà.
C'est leur petit confort.
C'est ça.
Leur petit confort.
Finalement, voilà. C'est ça. Faire des tartes à la maison et faire des petits posts Instagram.
Voilà, c'est ça, de se prendre en photo, de se faire ci, de se faire là, dire ah oui, moi je suis la femme, ah mais grosse moi pression. Je suis parfaite et tout.
Ouais. On se met aussi la pression. Annick, c'est la première fois que vous m'appelez, non?
Non, ça fait plusieurs fois.
Ah là, ça fait longtemps alors.
Oui, ça fait un moment, parce qu'il y a des moments où je réagis, puis je dis, bon, allez, on laisse tomber. Mais là, ce matin, ce n'était pas
possible. Ça vous a fait bondir. Annick, revenez quand vous voulez. Merci à vous, en tout cas. Il est 7h39, comme Annick, vous n'hésitez pas. Le 32-16, bien sûr.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. Une Europe vulnérable face à un Donald Trump tout puissant, le président américain qui est attendu dans les toutes prochaines heures à Davos. Il est en route en ce moment même vers l'Europe. Bonjour Thomas Gomard. Vous êtes le directeur de l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous publiez demain cet ouvrage « Qui contrôle qui ?» Les nouveaux rapports de force mondiaux. C'est aux éditions Taillandier et j'ai envie de vous poser directement la question « Qui contrôle qui ?» On est à nouveau dans un rapport de force, c'est presque le retour de la loi du plus fort.
Et on a l'impression que Donald Trump contrôle beaucoup de choses. Après, il faut voir sur la durée si c'est vraiment le cas. C'est difficile de répondre à la question de manière univoque. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est dans un système ultra interdépendant et que donc l'impression que quelqu'un domine et a à la fois les clés pour décider et mettre en œuvre est une idée, à mon avis, assez fausse. Ce qu'il faut voir, en revanche, c'est l'importance de la relation transatlantique et le fait qu'elle connaît une mutation très profonde, à la fois sur le plan de la sécurité et sur le plan commercial.
Mais vous dites qu'elle est importante et c'est tout l'enjeu. Y a-t-il un chemin de crête pour à la fois ne pas rompre totalement ces relations? Le journal Le Monde, par exemple, hier titrait sur le divorce entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il faut divorcer, acter d'une séparation? Ou est-ce que l'on peut trouver un chemin d'équilibre entre le fait de rester allié mais ne pas se laisser piétiner?
L'expression du chemin de crête est la bonne, parce qu'en fait, les Européens ont besoin des Américains pour l'Ukraine. Fondamentalement, ça explique beaucoup de leurs décisions, notamment en matière commerciale, avec l'accord commercial du mois de juillet. Et ils veulent tenir les Américains à distance du Groenland. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver, d'autant que la relation transatlantique, elle est évidemment saturée par le personnage de Donald Trump, dont on parle tous les jours. Chaque jour
il
un peu
sature
plus.
L'espace médiatique le mur du son tous les jours.
Avec un talent évidemment sans comparaison. Mais la relation bilatérale, c'est aussi beaucoup d'échanges économiques, financiers, culturels, humains. C'est un axe de rotation de la mondialisation. Et donc ça ne se remet pas en cause, même si le président des États-Unis a les foucades à répétition que l'on sait.
J'allais quand même préciser qu'effectivement, en faisant le choix de venir en personne à Davos tout à l'heure, au fond, il montre que les Européens comptent pour lui, puisqu'il vient en personne. L'an dernier, il avait envoyé son vice-président, J.D. Vance, qui d'ailleurs avait fait un discours extrêmement dur vis-à-vis des Européens dans ce même espace de Davos. Les Européens en étaient sortis sans voix. Il leur avait dit qu'il y avait une dégradation, une décadence de l'Europe, y compris sur le plan des valeurs à ses yeux. Tout cela avait saisi d'effroi les Européens. A-t-on pris vraiment la mesure? Vous évoquiez à l'instant l'accord commercial de juillet. C'est bien celui qui, hier, a été mis sur pause par les Européens. Est-ce qu'on a raison de jouer ce bras de fer-là?
Alors d'abord, tout le monde est suspendu à Davos. Il se trouve que j'y étais hier et tout le monde attend la déclaration de Donald Trump. C'est-à-dire que le système aussi médiatique et politique fonctionne en fonction de ce qu'il va dire, des anticipations qu'on peut avoir. Sur le fait d'avoir suspendu cet accord, c'est évidemment lié à la situation au Groenland, puisque le Groenland est une partie du royaume du Danemark, et c'est probablement le point, je dirais, de rupture en réalité. C'est-à-dire que le discours de Donald Trump d'aujourd'hui va être très important, parce que on va voir s'il fait une surenchère en termes commerciaux, comme il l'a annoncé avant. Et ensuite, comme toujours avec lui, est-ce que le discours est suivi d'actes? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des annonces tonitruantes et puis une mise en œuvre qui ne vient pas. Et pour les Européens, c'est effectivement une des réactions, je dirais, inévitables compte tenu de la pression que l'administration.
Moi, il y a un point que je ne comprends pas et pour laquelle j'ai toujours une question. Le Groenland, je comprends, mais affaiblir l'Europe telle que Emmanuel Macron l'a d'ailleurs dit hier, il a exprimé le fait que les États-Unis souhaitaient, semble-t-il, affaiblir l'Europe. Quel est l'intérêt pour Donald Trump d'affaiblir l'Europe? N'a-t-il pas intérêt à avoir tout de même un allié?
C'est plus facile d'affaiblir l'Europe dans le monde d'aujourd'hui que la Chine ou la Russie.
Mais pourquoi vouloir affaiblir?
Parce que c'est une manière de dominer et de contrôler, pour reprendre la question de mon livre. C'est-à-dire que c'est une manière pour le président Trump de montrer qu'il est le parrain du système occidental et de vouloir imposer aux Européens ses vues. Et donc c'est plus facile, encore une fois, de s'en prendre à l'Union européenne compte tenu de sa plasticité, de sa construction, que d'expliquer au président Xi qu'il doit réduire ses droits de douane ou au président Trump, au président Poutine, qu'il doit trouver un cessez-le-feu.
Un système mafieux, comme vous dites, c'est-à-dire qu'au fond, il veut désormais être dans la place du parrain, le parrain qui d'ailleurs est à la fois craint, forcément on vient baiser sa bague. Est-ce que il a aussi le comportement du parrain qui à un moment décide finalement d'éliminer certains de ceux qui étaient ses alliés de la veille?
De manière structurelle, c'est quoi les États-Unis et l'Europe? C'est que les États-Unis assurent la protection de l'Europe pour la plupart des pays européens, à l'exception peut-être de la France et de la Turquie. Les autres pays européens ont d'une certaine manière donner leur sécurité, leur défense aux Américains dans le cadre de l'OTAN. Bon, et donc ça dure depuis 1945, sauf que la rupture avec Donald Trump, c'est qu'il dit « vous allez payer comptant pour cette protection ». Donc cette image du parrain, si vous voulez, il faut la manier avec précaution, parce qu'évidemment, on est dans un système politique avec des élections, des contre-pouvoirs. Mais elle repose sur l'idée que les États-Unis apportent la sécurité aux Européens. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire que Donald Trump leur dit « vous voulez de la sécurité, il va falloir accepter davantage de conditions qu'avec les administrations précédentes ».
Merci beaucoup Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de Qui contrôle qui? Les nouveaux rapports de force mondiaux, ça sort demain aux éditions Taillandier. Notez qu'à 8h30, mon invité, ce sera l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, Thierry Breton, lui-même bête noire de l'administration Trump et interdit d'ailleurs de séjour sur le territoire américain. Rendez-vous donc à 8h30. Il est 7h49, Louis Sarkozy est avec nous dans un instant, la voix de droite sur RMC. Vous voulez tout changer au droit syndical, réduire le nombre de syndicats, interdire des grèves pendant les négociations. Voilà certaines des propositions qui sont dans le débat public aujourd'hui. Et pourquoi pas?
Parce que le dialogue social est malade, chère Apolline. Il faut passer, en vérité, du conflit au contrat.
A tout de suite, 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 dans un instant. Louis Sarkozy qui veut remettre en cause le droit syndical. Mais d'abord le bonus Mathieu. Vous l'entendez, c'est le film Zootopie 2. Ça bat des records.
Il est en salle depuis fin novembre, mais il continue d'attirer les familles en salle et il pulvérise des records.
Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie.
Y'a un serpent! Zootopie 2 se fait même une place dans l'histoire du ciné. 1,7 milliard de dollars de recettes, c'est désormais le film d'animation hollywoodien le plus rentable de tous les temps. Il dépasse Vice Versa 2, une ville peuplée d'animaux, une lapine policière, un renard arnaqueur reprennent du service pour résoudre une nouvelle enquête pleine d'action, pleine d'humour et pleine de tubes, Shakira notamment. Connue la chanteuse colombienne qui signe la chanson du film Zoo et qui caracole elle aussi en tête de tous les classements Spotify, Deezer et les compteurs tournent toujours.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h52 sur RMC et sur RMC Story. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour.
Mais oui, parce que c'est mercredi, voix de droite sur RMC. Alors ce matin, vous nous parlez des syndicats et vous nous faites presque une fiche de lecture. Il y a ce livre qui fait grand bruit, Sauver la démocratie sociale, écrit notamment par l'économiste Gilbert Sept. C'est aux éditions Kalman-Lévy, avec des idées assez radicales. Les auteurs, ils veulent notamment interdire la grève pendant les négociations collectives. Ils disent on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe. Est-ce que vous les rejoignez?
Ouais, ce livre est tout simplement génial. La formule d'ailleurs est parfaitement brutale et parfaitement juste. La France affiche l'une des plus fortes fréquences de grève parmi tous les pays industrialisés, malgré un taux de syndicalisation d'à peu près 10%. La vérité, Apolline, c'est que nombre de syndicats ne sont plus du tout motivés par l'amélioration du dialogue social, mais par la surenchère permanente. Ils représentent en vérité assez peu de monde et traitent la grève comme un fonds de commerce. La vérité, c'est que la France en a marre. On n'améliore pas le dialogue social par la prise d'otages.
ils parlent, les auteurs, d'une démocratie sociale, je cite, dévitalisée.
Mais oui, il y a moins en moins de salariés syndiqués, mais toujours autant de blocages. Les syndicats occupent un rôle très institutionnel, ils ont beaucoup de pouvoir, ils sont ravis de hurler sur les plateaux télé, mais produisent en vérité assez peu d'accords structurants. À force, le système perd totalement en crédibilité.
Alors les auteurs proposent aussi de réduire le nombre de syndicats représentatifs de 5 à 3.
Et c'est une rationalisation. Trop d'organisations poussent à la surenchère permanente. Chacun veut apparaître comme le plus combatif, le plus radical, au parfait détriment du compromis. Réduire et responsabiliser les interlocuteurs, c'est au contraire simplifier la recherche du compromis.
Alors l'exemple roi qui est cité par les auteurs, c'est la SNCF, où les conflits arrivent parfois avant même le début des discussions.
Ouais, c'est devenu quasiment mécanique, on annonce la grève et on négocie sous pression. En vérité, c'est un scandale, il faut laisser un temps de négociation clair et encadré avant tout appel à la grève. Et si la grève advient, que les Français comprennent exactement pourquoi.
Vous avez vécu aux États-Unis, la culture sociale là-bas est très différente.
Ouais, alors ça, c'est très intéressant. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que les États-Unis sont un pays extrêmement décentralisé, par État, par secteur et surtout par entreprise. Les négociations s'y déroulent donc à un niveau local, sans paralyser l'ensemble du pays à chaque conflit. Ensuite, le dialogue social y est beaucoup plus encadré que chez nous. La loi Taft-Hartley de 1947 impose un préavis obligatoire avant toute grève et donne au gouvernement fédéral le pouvoir d'intervenir lorsqu'un mouvement menace la sécurité nationale. Par ailleurs, c'est assez marrant quand on compare avec la France, le droit de grève des fonctionnaires n'est reconnu que dans 11 des 50 États. Il n'y a pas là-bas de culture du chaos ou du blocage systémique, mais une culture qui privilégie d'abord le travail et la responsabilité.
Alors, évidemment, les syndicats eux-mêmes se sentent menacés par les propositions de ce livre.
Bien sûr, mais en vérité, ils sont menacés par leur propre comportement, en se politisant à outrance, en intervenant sur tout. Ils s'éloignent de leur mission première, la défense des salariés. Et il faut restaurer des règles claires, ça va aussi restaurer leur légitimité.
Alors, les auteurs économistes proposent plus de représentants des salariés dans les conseils d'administration également.
C'est sans doute ici la réforme la plus structurante. Il faut se débarrasser de ces chefs d'orchestre de la plainte qui ne vivent qu'en paralysant notre pays. Il faut décentraliser le dialogue social au niveau des entreprises et des territoires, imposer un temps de négociation encadré avant toute grève et surtout réduire le nombre de syndicats représentatifs. Le but, ma chère Apolline, c'est de passer du conflit au contrat.
Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. On rappelle donc le titre de ce livre pour lequel vous faites une véritable déclaration d'amour ce matin. Ça s'appelle « Sauver la démocratie sociale » et c'est écrit notamment par l'économiste Gilles Berset. C'est aux éditions Kalman-Lévy. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo, sur RMC. Rendez-vous comme chaque jour à 7h50. Pour l'heure, il est 7h56. Dans un instant, le journal de 8h. Donald Trump en route pour Davos, le président américain qui continue son offensive contre l'Europe et la France. Météo, attention, vigilance en Bretagne, on y reviendra. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Pierre Rondeau. Pierre, il n'y a jamais eu autant de touristes dans le monde.
Oui, 1,5 milliard de touristes dans le monde l'an dernier. Record battu et cocorico, la France est encore en tête des pays les plus visités.
7h56, restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h tout pile. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'Europe à la une ce matin. Les Européens qui attendent de pied ferme Donald Trump à Davos en Suisse au Forum économique. Le bras de fer se durcit sur le Groenland. Emmanuel Macron demande ce matin un exercice militaire de l'OTAN. Le vote de la dernière chance aujourd'hui au Parlement européen de Strasbourg. Dernière cartouche pour mettre un coup de frein à l'accord avec le Mercosur. Et puis Marseille contre Liverpool ce soir en Ligue des champions de football au lendemain des défaites de Paris et de Monaco.
La petite station suisse de Davos sera le centre du monde aujourd'hui.
Oui, Donald Trump est attendu là-bas. Ce sera à la mi-journée où se tient depuis hier le Forum économique mondial. Et il aura sans doute un petit peu de retard d'ailleurs, Donald Trump, puisque son avion a dû faire demi-tour cette nuit pour un problème technique peu de temps après son décollage aux États-Unis. Il va débarquer là-bas en Suisse dans un contexte de bras de fer avec les Européens. On parle carrément d'un risque d'explosion de l'OTAN à cause de ses velléités sur le Groenland. Il en a remis une couche hier soir, entretenant le flou comme il le fait tout le temps. Écoutez.
Nous allons faire en sorte que l'OTAN soit contente et que nous soyons très contents. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et vous allez voir jusqu'où je peux aller pour l'acquérir.
Alors Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, en direct ce matin, on assiste à un changement de ton de la part des Européens qui ont l'air décidés à répondre à Donald Trump, à engager le bras de fer. Ce matin, c'est Emmanuel Macron qui demande un exercice de l'OTAN au Groenland auquel la France participerait.
Oui, alors il y avait déjà une quinzaine de chasseurs alpins envoyés par la France il y a quelques jours pour une opération avec l'armée danoise. Cette fois, ce que propose Emmanuel Macron, c'est un exercice militaire au sein de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, dont les États-Unis sont aussi membres. Une mission destinée à assurer la sécurité dans la région. En fait, entre les lignes, le message envoyé à Donald Trump, c'est que les Européens ne négligent pas cet aspect sécuritaire dont le président américain parle beaucoup. Vous l'avez entendu, il dit avoir besoin du Groenland précisément pour des raisons de sécurité, évoquant les menaces russes et chinoises. Alors Emmanuel Macron propose de se saisir du sujet et de le régler au sein même de l'OTAN. Voilà pour la manière douce. Quant à la manière forte, bien elle est toujours sur la table. Le Parlement européen a suspendu hier la ratification de l'accord commercial signé l'été dernier avec les États-Unis. Ce message est un avertissement, a prévenu le ministre français des Affaires étrangères hier soir. Les chefs d'État européens ont rendez-vous demain soir à Bruxelles pour envisager des mesures de rétorsion plus fortes sur les produits américains, avec au menu le fameux bazooka, ce dispositif anti-coercition évoqué par Emmanuel Macron.
Alors, il y a un sujet sur lequel les Européens sont divisés, c'est le traité avec les pays du Mercosur. Il a été ratifié à Bruxelles il y a maintenant 10 jours. Mais ça se joue désormais à Strasbourg. Au Parlement européen, il va y avoir le vote de la dernière chance aujourd'hui. Au Parlement européen, les députés européens vont décider ou pas de saisir ce qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne dans le dossier du Mercosur. Ça aurait pour effet en fait de mettre sur pause cet accord. Cyprien Pézeril, vous êtes ce matin en direct pour RMC devant le Parlement européen. On sait que les Européens sont divisés et que ça va se jouer à quelques voix près.
Oui, à 8 petites voix près, pronostiquent plusieurs élus. Pas de surprise côté français, ils devraient tous voter pour saisir la justice. Du RN Jordan Bardella à l'insoumise Manon Aubry, en passant par les macronistes. Mais pour faire basculer le vote, jusqu'à la dernière minute, les Français cherchent à convaincre leurs collègues étrangers, quelle que soit leur étiquette politique. Si la justice est saisie, elle vérifiera que le Mercosur respecte les traités. Et pendant ce temps, la signature finale sera reportée de plusieurs mois. Même si la Commission européenne pourrait tenter ce que certains appellent déjà un passage en force, et malgré tout appliquer provisoirement l'accord. Pour faire pression, environ 400 agriculteurs, essentiellement français, sont restés toute la nuit à dormir assis dans leur tracteur moteur allumé pour résister au froid, comme Jérôme, éleveur bovin venu de Nancy, avec l'espoir de mettre un coup d'arrêt au Mercosur.
D'où on joue un peu notre avenir aujourd'hui, en espérant que le veau du Mercosur soit censuré et puis que tout se passe bien, quoi. Qu'ils se mettent de notre côté maintenant, que ce soit de n'importe quel bord politique.
Il prévoit de repartir à l'issue du vote à la mi-journée.
Voilà, Cyprien Pézeril, en direct du Parlement européen de Strasbourg ce matin pour RMC. Tiens, puisqu'on parle du Parlement européen, deuxième journée d'audition pour Marine Le Pen aujourd'hui au procès en appel à Paris, de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Elle a déjà été auditionnée toute la journée d'hier et a répété qu'elle n'avait rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. La campagne des municipales à Paris, ça se passera sur RMC ce matin. Je vous signale que la candidate de la droite, Rachida Dati, toujours ministre d'ailleurs, sera l'invitée des Grandes Gueules ce matin à 11h.
Il est 8h04 et on vous dévoile ce matin le nouveau rapport du Haut Conseil à l'égalité. Rapport qui identifie une nouvelle forme de sexisme.
Oui, sexisme, disons, plus radical pour 17% de la population, mesuré pour la première fois par des chercheurs du CNRS. Un sexisme, en fait, redoutant que la femme prenne le pouvoir sur l'homme. C'est ça, Louis Salé?
Plus d'un tiers des hommes et même un quart des femmes estiment par exemple que le féminisme menace la place des hommes dans la société, comme ces deux jeunes hommes qui trouvent que les avancées des droits des femmes ont eu des conséquences néfastes.
Maintenant, on entend beaucoup moins les hommes. Et vu que on est dans une période où les femmes elles sont prises en compte, quoi, et elles peuvent mentir et du coup les hommes peuvent se sentir menacés parce qu'ils sont accusés à tort, des choses comme ça.
La parole d'une femme, elle porte plus que la parole d'un homme face à la justice. Par exemple, s'il s'agit des violences conjugales, des choses comme ça, si c'est une femme qui en parle, on a automatiquement du soutien. Mais quand c'est un homme, on le prend pour un comédien, quoi.
Des propos radicaux qui, quand ils se généralisent, relèvent d'un sexisme que l'étude qualifie d'hostile. Il concerne 10 millions de Français, selon Pascal Huguet, chercheur au CNRS, qui a dirigé cette enquête. Il décrit leur profil.
Les gens dont on parle assument une orientation religieuse, quelle qu'elle soit. La tendance lourde, c'est droite, extrême droite et sans opinions politiques et notamment dans les catégories socio-professionnelles plus précaires.
Et ce genre de sexisme alimenté par les réseaux sociaux peut enfermer dans une idéologie masculiniste qui appelle à la violence envers les femmes.
Nouvelle audition en Suisse pour les gérants français du bar de Cromontana, incendié la nuit du Nouvel An. Audition qui porte sur les faits cette fois. Jacques Moretti, le gérant, a été interrogé pendant 10 heures hier. Il ne s'est pas dérobé, assure son avocat. Ce sera au tour de son épouse Jessica Moretti aujourd'hui. C'est la pluie qui serait à l'origine du nouvel accident de train qui a fait un mort et 4 blessés hier soir en Catalogne. Un train de banlieue qui a percuté un mur tombé sur les voies 2 jours seulement après la terrible collision qui a fait au moins 42 morts selon le dernier bilan en Andalousie. Il y a la plus grande centrale nucléaire du monde qui va redémarrer aujourd'hui au Japon pour la première fois depuis la catastrophe de Fukushima. Souvenez-vous, en 2011, elle était à l'arrêt depuis et une majorité de Japonais sont d'ailleurs opposés à son redémarrage. Le foot, c'est une grande affiche qui attend Marseille ce soir en Ligue des Champions. On la vivra sur RMC. Une affiche comme on les aime, Florent Germain, pour l'OM qui va recevoir Liverpool, donc une des plus grandes équipes d'Europe.
Oui, l'OM ne doit pas rougir devant les Reds de Liverpool. Les supporters marseillais y croient. Tony a en tout cas traversé la France pour vivre cette soirée européenne.
Ah, c'est un super match, c'est une affiche mythique, Marseille-Liverpool. C'est les supporters anglais, supporters marseillais ensemble. C'est à faire. On craint des gains et Liverpool, on va les avoir. On va les plier, les Anglais.
Ambiance chaude et adversaire prestigieux qui compte à son actif 6 Ligues des Champions. Le milieu de terrain Pierre-Emile Højbjerg espère que l'OM sera au rendez-vous.
Deux clubs extraordinaires, de la passion, de l'histoire. Un stade extraordinaire et j'espère aussi que tout le monde avec le maillot et le sang marseillais partira aussi avec un sourire.
En cas de victoire, Marseille sera au minimum qualifié pour les barrages. Raison de plus pour se lâcher, annonce l'entraîneur Roberto De Zerbi.
On doit jouer avec de l'envie, de la passion et faire honneur à ce vélodrome qui sera plein pour recevoir un grand Europe. On y croit car on a montré contre le PSG ou le Real Madrid qu'on peut être au niveau des meilleures équipes. Je ne sais pas si on va perdre ou gagner, mais on est capable de battre n'importe qui.
Le vélodrome qui a préparé quelques tifos grandiose s'annonce bouillant et à guichet fermé, avec également 3300 supporters anglais en tribune.
Ce soir à 21h donc sur RMC et au lendemain des défaites de Paris et de Monaco dans cette Ligue des Champions. Monaco corrigé littéralement 6 buts à 1 chez le Real hier soir et Paris battu 2-1 dans les toutes dernières minutes chez le Sporting Lisbonne. Les Parisiens qui n'auront pas le droit de se louper la semaine prochaine pour la dernière journée contre Newcastle s'ils veulent se qualifier directement en 8e de finale.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Pierre Rondeau, il n'y a jamais eu autant de touristes dans le monde, c'est ce qu'affirme un rapport de l'ONU paru hier.
Oui Apolline, il y a eu en 2025 1,5 milliard de touristes à travers le globe, autrement dit une personne sur 8 sur la planète a voyagé l'année dernière. Un record absolu en augmentation de 4% par rapport à 2024 et même de 6% par rapport à 2019. Avant le Covid-19, la pandémie semble très loin derrière nous. Et au total, le secteur touristique a généré 11 700 milliards d'euros de dépenses. Une activité en très bonne santé, donc.
Et la France s'en tire très bien.
Eh bien, évidemment, la France est la première destination touristique du monde. Elle s'en sort toujours aussi bien. Notre pays a accueilli 105 millions de touristes internationaux en 2025 et produit un chiffre d'affaires de 94 milliards d'euros. Mais la France reste talonnée par l'Espagne et l'Italie. Ces deux principaux concurrents qui connaissent eux aussi des résultats à la hausse. Globalement, selon le rapport de l'ONU, le continent européen est la principale destination touristique au monde avec 793 millions d'arrivées enregistrées. Enfin, en dehors de l'Europe, deux pays se démarquent, le Maroc avec une augmentation de 14% et le Brésil, première destination d'Amérique du Sud avec une croissance touristique de 37%.
Et alors les États-Unis, est-ce que la présidence de Donald Trump a eu une incidence sur le secteur touristique aux États-Unis ?
Oui. C'est l'un des points forts du rapport. L'activité américaine a connu une très forte baisse depuis 2024, l'élection de Donald Trump. Sa présidence, ses coups d'éclat, ses déclarations contre ses principaux partenaires, tout cela a produit une forme de boycott ou un refus de voyager outre-Atlantique. Rajoutez à cela le renforcement des critères d'accueil, avec notamment, rappelez-vous, l'accès à l'historique à partir du mois de février, à l'historique de vos réseaux sociaux et les difficultés d'obtention de visa. On se bouscule de moins en moins à la douane américaine. La baisse touristique enregistrée est de 6% entre 2024 et 2025 et cela devrait profiter aux autres destinations. L'ONU anticipe en effet que 2026 sera aussi une très bonne année touristique avec une envie de voyage et de découverte qui restera inchangée.
Merci Pierre Rigaud, il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint et à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera l'ancien commissaire européen
persona non grata, justement, sur le sol américain. Thierry Breton. Juste après ça, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup tous les matins sur RMC à 8h50. On se retrouve dans un instant, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et c'est tous les jours qu'il est avec nous. Arnaud. Bonjour. Prenez votre
croissant.
Vous êtes bien installé, tout va bien.
Installé tranquillement.
Un petit café, un petit thé.
Un petit croissant. C'est tellement gentil.
Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous les amis. Non, alors on est un peu distrait. En plus avec tout ce qui se passe dans le monde,
oh là là,
au niveau international. Trump qui veut envahir le Groenland. Macron qui fait des discours à Davos avec les lunettes de Macron, de Maître Gims.
Non, Donald, tu n'auras pas l'Europe.
On oublie un peu la politique française et pourtant hier on a eu notre premier 49-3 de l'année. Bonne année. Ah, ça nous a rappelé des souvenirs. Le 49-3, c'est tellement rétro. C'est le tube des années Borne, c'est le tube des années Valls. C'est vintage pour une matinale.
Merci Patrick Roy. Tout de suite, l'actualité avec Roger Texer et Gaston Vinet.
Et oui Jean-Pierre, bienvenue sur Radio Monte Carlo. Le gouvernement français qui a actionné le 49 alinéa 3, c'est comme à Monaco, on s'emmerde pas avec les votes. Et tout de suite, musique sur Radio Monte Carlo. On va te sérénissime. Ah c'est vintage. Par contre, conséquence tragique à tout ça, adieu Olivier Faure.
Oh là là là.
Petit ange parti trop tôt. Maintenant que le dossier est bouclé, qu'il ne peut plus peser sur les décisions du Premier ministre, c'est fini. Adieu la hype du PS. Bye bye Olivier. Il a rejoint son charisme au paradis des socialistes, c'est-à-dire dans le 11e arrondissement. Non, franchement, pour eux, c'est moche, parce que personne n'en avait rien à foutre de leur avis. Et puis là, Sébastien Lecornu les draguait, les voulait, c'était fashion. Mais bon, les socialistes, c'est un peu comme les Laboubou ou la Tectonique. C'était une mode éphémère. Tenez, même vous, vous avez craqué, Apolline. Vous l'avez beaucoup reçu, Olivier Faure. C'était pas pour le plaisir, on va pas se mentir. C'est parce qu'il fallait suivre la tendance PS. Mais bon, dans 2 ans, quand vous reverrez des photos de vous en train de l'interviewer, vous direz... On était quand même un peu ridicule à l'époque. Quand on regarde des photos de nous des années 2000, on a un sac banane, un t-shirt Fido Dido, une casquette Von Dutch de travers, et on est là, oh, on était con quand même en 2026. On écoutait Olivier Faure. On se demandait si François Hollande se représenterait. Et puis voilà. Il y a eu la Troisième Guerre mondiale et puis tout ça s'est terminé.
Arnaud, l'ambassadeur d'Iran en France est très présent sur les plateaux pour défendre le régime des Mollahs.
Oui, il s'appelle Mohamed Amin Nejad et il répète en boucle « Le régime n'a pas de sang sur les mains ». Pour lui, les victimes, ce sont les forces de l'ordre et pas les émeutiers. C'est du bullshit. Merci. Cet excellent jeu de mots, d'ailleurs, a reçu l'ours d'argent à la Mostra des jeux de mots de Venise. C'est un mélange entre l'islam chiite et le bullshit. C'est un jeu de mots trilingue. C'est le seul en Europe. J'ai eu 9,84 du juge autrichien, notre technique. Donc, faut l'inviter.
Tu donnes une bonne note aussi, en note artistique.
Faut l'inviter dans le face-à-face, oui. L'ambassadeur d'Iran. Face à vous, il fera moins le malin. Je reçois ce matin l'ambassadeur d'Iran, Mathilde Panot, bonjour. Non, alors, je suis Mohamed Amin Nejad. Madame, on se trompe dans ce dossier entre bourreau et victime. Tenez, hier, un manifestant a frappé un policier qui lui tirait dessus. Eh bien, le policier a eu très mal. Et la femme du policier, on y pense. Vous croyez que ça l'amuse de nettoyer le sang des manifestants sur son uniforme? À un moment, il faut parler des vraies victimes. Et tenez, pas plus tard que ce matin, en Iran, un lapin a tué un chasseur. Et c'était un lapin qui
avait un fusil.
Voilà, vous le saviez. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, vous le saviez. Toute ma jeunesse.
Vous êtes là, Arnaud. Donald Trump souhaite créer le Conseil de la paix pour concurrencer l'ONU.
Oui, son truc, on le voit d'ailleurs en ce moment, son truc à Donald Trump, c'est la paix. D'ailleurs, il veut envoyer des soldats armés au Groenland pour éviter que la Russie n'envoie des soldats armés au Groenland. Il va faire la guerre, oui, mais pour éviter la guerre.
Ah, c'est voilà.
Pour la paix, c'est subtil. Donc il a monté son conseil de la paix, dirigé par lui, son gendre, son secrétaire d'État, ses potes. Et pour en faire partie, il faut payer 1 milliard.
Ah ouais.
Donc il n'y aura pas beaucoup de pays africains, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est leur budget annuel pour tout. Et alors dans les premiers membres, il y a Viktor Orban, Javier Milei. Il a proposé à Poutine, c'est l'ONU des méchants. Il va siéger au conseil avec un chat blanc sur les genoux. Oh, nous devons tuer l'agent 007.
Mais je t'arrêterai, Donald, avec mes lunettes d'agent secret. Oh mon Dieu, Emmanuel Macron, le biker de la justice, le blues en noir de l'amour. Quel charisme depuis qu'il a les lunettes de Bébert des Forbans.
Alors Emmanuel Macron a refusé de faire partie du Conseil de la paix. Ça, Donald Trump, ça lui a pas plu. Il a dit 200% de droits de douane sur les vins et champagnes. C'est un forceur, hein. On dirait un vendeur de France Loisirs dans les années 90. Tout ça parce qu'il a pas eu le Nobel de la paix. Nous, il va nous attaquer si on lui remet pas une médaille, hein. Il faut que Macron l'appelle tout de suite. Allô, Donald, bonne nouvelle. Vous avez un Energy Music Award du meilleur album de K-pop. Oh, I love K-pop. I'm the best K-pop singer in the world. Whoop, Gangnam Style. Et c'est Jordan Bardella qui vous remet cet Energy Award.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Bah, Energy Award. Tout ça, c'est la faute de ces cons de Norvégiens qui n'ont pas voulu lui filer le Nobel. C'est alors qu'on s'en branle du Nobel de la paix. Qui se souvient du Nobel de la paix d'il y a 2 ans? Vous vous souvenez?
Non.
C'était Bachar al-Assad.
Non, c'est pas vrai.
Mais vous voyez, on s'en souvient pas. Hein. Alors en vrai, c'était Nihon Hidanko.
Ah oui.
Et à votre avis, c'était un homme ou une femme? Eh ben non, c'était une organisation. Vous voyez qu'on s'en fout. Autant lui donner. Allez, à demain.
Bravo.
Ah mon Dieu. Arnaud Demange, tous les jours. 7h20, 8h20. Tout de suite, au 32-16, Jean Olis qui nous appelle d'Arnouville dans le Val-d'Oise. Bonjour Jean Olis.
Oui, allô, bonjour Apolline. Bonjour à tous.
Bonjour à vous. Vous vouliez réagir effectivement à ce rapport qui montre que le masculinisme, les discours assez rétrogrades sur les femmes fleurissent désormais et sont même une menace. Comment vous réagissez par rapport à ça, vous, Jean Olis?
Je trouve que c'est une absurdité de dire ça. Et puis, je réagissais par rapport à un auditeur qui disait que les femmes, en fait, cherchaient plus à dépasser les hommes.
Alors, qu'il les voyait comme une forme de menace, les féministes.
Exactement.
Notamment.
Alors, moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que les femmes ont très souvent été, leur action a été minimisée, elles ont toujours été mises en dessous de tout. Donc, je pense qu'arriver à un moment, elles vont forcément faire beaucoup d'efforts pour réussir à être au niveau, c'est pas qu'elles ne le sont pas,
mais pour prouver
qu'elles sont, qu'elles méritent d'être à leur niveau. Donc forcément, vu qu'elles font énormément d'efforts, je me dis, ceux qui les voient agir vont forcément dire, elles en font trop, elles veulent nous dépasser. Non, c'est simplement que, arrive un moment, effectivement, elles seront à bout de course et donc forcément, elles font énormément d'efforts pour
votre épouse, Jean Olis, elle bosse, elle est au même niveau que vous?
Oui, elle est cadre dans une très grande entreprise et sincèrement parfois je vous avouerai que je suis même un petit peu jaloux, je trouve même que elle me dépasse largement, enfin c'est même pas que je trouve, elle me dépasse largement et parfois je m'agite beaucoup pour me faire remarquer d'elle.
j'aime beaucoup Jean-Olis, on sent vous êtes fier quand même.
Totalement,
ouais.
Oui.
Ouais, voilà.
Et sincèrement, je voudrais rajouter ceci, c'est que pour moi, sans elle, comme je disais à votre collaborateur tout à l'heure, je me sens même totalement nu.
Eh ben voilà, on a besoin d'être deux, effectivement. Et c'est très bien quand on est à égalité et surtout complémentaire. Merci beaucoup Jean-Olis d'avoir réagi au 32-16. Il est 8h22. Dans un instant, mon invité, il est persona non grata justement aux États-Unis et il va essayer de nous expliquer comment faire avec Donald Trump, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Thierry Breton est mon invité sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La France hausse le ton à quelques heures de l'arrivée de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos, où il sera forcément question du Groenland que le président américain veut annexer. Paris réclame ce matin à l'OTAN de contribuer à l'exercice militaire européen déployé en fin de semaine dernière sur le territoire danois et se dit prêt à y contribuer. Au Parlement européen, un vote important aujourd'hui pour l'avenir de l'accord commercial avec le Mercosur. Les eurodéputés députés doivent décider s'ils saisissent la Cour de justice de l'Union européenne pour s'assurer de la validité du texte. Le vote s'annonce serré. En plein deuil national, une nouvelle catastrophe ferroviaire en Espagne après la collision de deux trains qui a fait 42 morts dimanche en Andalousie. C'est à Gélida, dans la région de Barcelone, qu'un nouvel accident a eu lieu hier soir. 4 personnes ont été grièvement blessées. Une autre, le conducteur probablement du train, est morte. Nouveau rebondissement dans l'affaire des laits infantiles Nestlé qui font l'objet d'un rappel massif dans une soixantaine de pays, dont la France. Une enquête judiciaire vient d'être ouverte après le décès d'un bébé qui a consommé ce lait.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien commissaire européen. Aujourd'hui, il est interdit de séjour aux États-Unis. Faut-il prendre Donald Trump au sérieux et comment lui résister? La réponse donc de Thierry Breton dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie également. Et vous êtes toujours interdit de territoire aux États-Unis?
Ben oui, c'est ce que j'ai appris effectivement le 24 décembre. J'ai compris que c'était parce que j'avais fait mon travail de commissaire européen. J'étais en charge du numérique, de proposer précisément des lois pour protéger nos enfants. Vous savez qu'ils passent plus de 4 heures par jour sur ces réseaux, pour protéger nos concitoyens, pour protéger notre démocratie. Ces lois s'appellent le DSA. Elles ont été votées par plus de 90% des parlementaires, des députés européens, 100% des États membres. Mais comme je les ai portées, eh bien, et qu'elles ne plaisaient pas sans doute à certains géants de la tech, eh bien, j'ai compris que je ne pourrait plus aller aux États-Unis.
Vous avez été placé sur cette liste, effectivement, de personnes qui n'auront plus accès aux États-Unis, en tout cas pour un temps. Est-ce que vous avez pu avoir un échange direct avec Donald Trump?
Non, bien entendu, je n'ai pas eu d'échange direct, ni du reste avec personne.
Faites attention de toute façon, parce qu'ensuite il expose les SMS.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Ni avec personne de l'administration américaine, je n'ai pas l'intention du reste de me rendre aux États-Unis, donc je ne demanderai pas de visa. En revanche, Apolline de Malherbe, au-delà de mon cas personnel.
Ce que ça dit.
Voilà, ce que ça dit.
Aujourd'hui.
C'est évidemment une humiliation, une vassalisation de plus, un pas de plus vers cette maîtrise totale que souhaite du reste Donald Trump. Sur nous, Européens, c'est ça ce que ça dit. Du reste, je tiens à le dire à votre micro, ce matin, j'ai été, au-delà de mon cas personnel, bien entendu, surpris par le nombre de personnes qui se sont manifestées. Des milliers et des milliers de personnes, partout en Europe, qui m'ont écrit, qui se sont manifestées pour me dire que, au fond, à travers cette sanction, c'était l'Europe et c'était eux qui se sentaient, au fond, humiliés, blessés. Et oui, une humiliation de plus. Alors ça va durer jusqu'à quand cette humiliation?
C'est un peu la question que j'allais vous poser. Comment on répond aujourd'hui? Donald Trump, au moment où on se parle, est dans l'avion, en direction de l'Europe. Il vient lui-même en personne au Forum économique de Davos, où il s'exprimera dans l'après-midi. L'année dernière, il avait envoyé son vice-président, J.D. Vance. Dans un sens, ça veut dire que l'Europe compte à ses yeux. Il vient en personne s'adresser aux Européens tout à l'heure. Mais est-ce pour y mettre un pied de plus? Est-ce pour précisément nous vassaliser?
Apolline de Malherbe, ça fait désormais un an jour pour jour que Donald Trump, Trump 2, est au pouvoir. J'écris du reste ce matin dans Le Grand Continent mes appréciations, au fond, les leçons qu'on a apprises depuis un an. Parce qu'on a appris. On a appris finalement que ça ne s'arrêterait pas. On a appris que lorsqu'on donne un petit bout, on prend le doigt. Et puis quand on prend le doigt, on prend la main. Et quand on donne la main, c'est la moitié du corps qui part. On a appris. Donc il faut qu'on en tire les leçons. Bien sûr, nous sommes, nous, Européens, attachés à notre projet. Nous avons un projet de paix. Nous ne sommes pas belliqueux. Mais enfin quoi? On sait que ça ne s'arrêtera pas. Donc il faut, d'une part, que nous en tirions les conséquences. Et c'est quoi les conséquences? C'est que le monde d'hier, c'est fini. Les alliés d'hier, c'est fini. Il faut qu'on en soit conscient. Et je vais même vous dire plus. Nous, Européens, il faut que l'on comprenne que nous sommes seuls. Nous n'avons plus d'amis. Alors quoi? On est quand même 450 millions. 450 millions de concitoyens. C'est pas rien, c'est une fois et demie, pardon, les États-Unis d'Amérique. Oui, nous, Européens, nous sommes une fois et demie plus importants que les États-Unis d'Amérique. Alors il faut désormais que nous prenions notre destin en main. Non pas encore une fois de façon belliqueuse, je le redis, il faut évidemment résister, mais on sait que ça ne suffira pas. Et donc il faut lancer immédiatement un projet, moi j'y travaille, pour que dans les 5 ans qui viennent, je dis bien 5 ans, c'est un maximum, nous puissions avoir repris l'intégralité de notre destin en main.
Ça veut dire quoi, l'intégralité de notre destin en main? On va y venir. Mais ça se joue aussi dans les heures qui viennent. On a l'impression qu'une escalade de propos, de mots, d'humiliation, comme vous dites, mais également de démonstration de force, ces tout derniers jours, est en route, avec effectivement une difficulté qui est, vous dites, on est seul, mais faut-il acter que les États-Unis ne sont plus notre allié? Faut-il même aller jusqu'à dire qu'ils sont désormais nos concurrents, voire nos ennemis?
Écoutez, ça me semble une évidence. Vous avez lu, comme tout le monde, ce document sur la sécurité nationale qui a été, on le sait, donc proposé donc en novembre, à travers lequel, sur 33 pages, le gouvernement américain déclare désormais quelle est sa stratégie. Sa stratégie, c'est de mettre à bas, de mettre à mal, de détruire l'Union européenne. C'est écrit noir sur blanc. Bon, bah, il faut qu'on en tire les conséquences. Donc, à votre réponse, bien entendu, nous avons vécu ça comme c'était, c'est-à-dire clairement, bah, je dirais, une déclaration d'hostilité par rapport à nos institutions. C'est une évidence. Nous sommes encore aujourd'hui, pour répondre très précisément à votre question, alliés dans le cadre, évidemment, de l'OTAN. Mais pour combien de temps? Parce que si jamais, du reste, je note une, si vous permettez, que on voit que ça change beaucoup. Sur les 33 pages, pas un mot du Groenland. Donc si c'était aussi stratégique que ça, on se demande pourquoi ça a été oublié de le préciser.
Et on guettera évidemment chaque mot de Donald Trump aujourd'hui sur le Groenland. Est-ce qu'il s'agit en effet d'une forme de provocation? Est-ce qu'il veut véritablement annexer, voire prendre le Groenland? Il faut le prendre au sérieux?
Ben oui, ce que je veux dire, c'est qu'on fait en novembre, les États-Unis, un document qui explique pour les 4 ans qui viennent la stratégie américaine. On oublie de parler du Groenland. On nous dit 2 mois après que le Groenland est tellement stratégique qu'il faut désormais l'envahir. Vous voyez que c'est un peu compliqué à suivre. Je ferme la parenthèse. Mais donc pour nous, effectivement, si jamais il s'agissait d'attaquer, d'envahir, que sais-je, on ne sait même plus trouver les mots du reste, le Groenland, qui est un territoire européen, alors évidemment ce serait dans cette fois-ci la fin de l'Alliance Atlantique.
Pourquoi est-ce que Donald Trump veut affaiblir l'Union européenne? Quel est son intérêt? J'ai du mal encore à comprendre en quoi ça le renforce de nous affaiblir. N'est-il pas plus confortable pour lui d'avoir un allié dans ce monde particulièrement incertain?
Eh bien, je crois qu'il faut, pour répondre à votre question, lire ce qui s'est passé depuis un an à l'aune de ce qui va structurer le monde. Le monde dans les années qui viennent, y compris peut-être même pour la génération qui vient. C'est le choc frontal entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui va structurer le monde. Et donc, dans cette logique, tout ce qu'il fait, c'est pour se préparer à cette conflictualité. C'est-à-dire que...
Je raisonne peut-être de manière trop rationnelle, mais... parce qu'il y aurait peut-être demain un choc avec la Chine, n'a-t-il pas intérêt à avoir quelques alliés?
Eh bien, dans sa
plutôt
leçon,
vidé le reste du monde
dans sa notion
de sa puissance.
C'est une puissance impériale. Il fait des références du reste à l'Amérique impériale des années McKinley, des années, on le sait, autour du siècle, donc 1907. Il fait référence précisément à cette période. C'est son modèle. Et au fond, il nous considère comme quoi? Je crois qu'il faut le dire, comme des vassaux. Qu'est-ce que font les vassaux, Apolline de Malherbe? Eh bien, ils payent les guerres de l'Empire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu du reste, avec cet accord humiliant qui avait été signé par Ursula von der Leyen, on s'en souvient, en Écosse.
En juillet,
et qui a été heureusement...
Un accord commercial avec les États-Unis qui a donc été suspendu hier
par le Parlement européen, qui joue son rôle enfin, et je crois qu'il faut vraiment le noter, c'est vraiment désormais la chambre de la résistance. Pour la première fois, le Parlement européen, hier, a dit stop. Stop à l'humiliation, stop à la vassalisation, stop au fait que nous sommes là uniquement pour payer précisément, ben quoi, les guerres de l'Empire, pour payer effectivement, aller financer précisément l'économie américaine, aller acheter alors qu'on n'en a pas besoin tout l'hydrocarbure américain,
etc. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais enfin, Thierry Breton, pendant longtemps, c'est quand même les États-Unis qui ont payé nos guerres. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a trouvé bien confortable que les États-Unis, eux, fassent des dépenses en termes militaires et notamment leur participation à l'OTAN, qui nous permettait à nous de dépenser notre argent ailleurs.
Vous avez parfaitement raison, et en particulier pour 26 pays et pas le 27e, parce que le 20e, je rappelle,
nous, on a pris notre part. Oui.
Non seulement nous a pris notre part, mais nous sommes le seul, précisément, à avoir l'intégralité de l'architecture de défense. Mais pour beaucoup d'entre eux, on pense en particulier à l'Allemagne, mais pas que, effectivement, ils ont vécu sous le parapluie de défense, et voire également nucléaire, américain. Il n'en demeure pas moins que, comme on le sait, la contrepartie, c'est que les 26 ont acheté massivement de l'armement américain, et que globalement, cet accord, il est évidemment gagnant d'un point de vue économique pour les États-Unis.
J'imagine quand même qu'un certain nombre de pays s'en mordent les doigts aujourd'hui. Au premier rang, le Danemark, qui, lorsqu'il a dû choisir des modèles d'avions, plutôt que de choisir nos modèles européens, avait systématiquement fait le choix des modèles américains, les fameux F-35. La Pologne avait fait pareil. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, évidemment, il n'est plus temps forcément de se lamenter, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de naïveté, voire même d'ingratitude d'un certain nombre de pays vis-à-vis de leurs partenaires européens au profit des Américains, avec aujourd'hui, évidemment, les conséquences qu'on voit?
Vous avez raison, il faut relire cette histoire, et cette histoire, elle est derrière nous. Et effectivement, pour la quasi-totalité des pays européens qui dépendaient intégralement ou quasi intégralement de la protection américaine, ils viennent de se rendre compte que finalement, eh bien, Donald Trump et les États-Unis n'étaient plus un allié fiable, y compris dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN, et on le voit désormais, puisqu'un pays de l'OTAN peut être attaqué par un pays de l'OTAN. Donc, la contrepartie précisément de cette dépendance, c'était le fait que les Polonais, les Allemands, vous l'avez rappelé à l'instant, les Danois, achetaient américains. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Mette Frederiksen, qui est la première ministre danoise, bien sûr, elle a encore acheté des F-35, on espère que ce sont les derniers, parce qu'il fallait effectivement compenser cette flotte, mais je tiens à le dire, parce qu'il faut lui rendre hommage et grâce peut-être sur ce point, elle a acheté non plus des missiles Patriot pour défendre son espace aérien, mais des missiles MBDA qui sont franco-italiens. Donc enfin un tournant arrive, et c'est ce que je veux dire. Je voudrais ce matin à votre micro en appeler au réveil. Bien sûr, il faut continuer à discuter avec les États-Unis. Bien sûr, nous ne serons pas agressifs. Bien sûr, il faut commencer à mettre des moyens de rétorsion. Mais c'est pas avec ça qu'on va inverser la tendance. On va inverser la tendance parce qu'il faut que nous nous réveillons, que nous prenions notre destin en main, et que oui, sur le chantier du numérique, sur le chantier de la défense, sur le chantier de l'énergie, sur le chantier également du dollar triomphant, il faut que nous inversions la tendance. C'est possible, on y travaille.
C'est possible. Comment, Thierry Breton, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Effectivement, il y a à court terme cet outil qu'on appelle le bazooka, qui pourrait être une sorte de droit de douane inversé, si toutefois les menaces telles que Donald Trump, par exemple, encore il y a 48 heures, les a invoquées, l'idée de 200% de droit de douane, par exemple, sur le vin ou le champagne français. Alors, à court terme, on a les outils. Un, faut-il les activer? Deux, est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il faut désormais, effectivement, relancer une forme de marché intérieur européen qui nous redonne une forme de puissance économique?
Le relancer, c'est une évidence. Le poursuivre, l'accélérer, c'est une nécessité. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle, Apolline de Malherbe? Voilà donc que Donald Trump veut créer cette espèce de, on ne sait pas quoi, de board,
de conseil de la paix,
dont personne ne comprend très bien ce que c'est. C'est un peu comme, vous savez, les charity dinners, vous êtes invité et vous payez. Alors là, c'est un milliard
de tickets d'entrée.
Le président de la République dit qu'il n'en fera pas partie. Et on lui dit, parce qu'il dit tout simplement, moi je me sens pas à l'aise dans cette structure. On dit, ah tu te sens pas à l'aise? Eh ben tu vas prendre 200% de droits de douane sur le vin. Mais pardon, on est où? C'est ça le monde dans lequel on entre? Et on va continuer à laisser ça? Alors laissons parler, laissons dire, et nous avançons, et avançons ensemble, unis. Et c'est vraiment, je tiens à le dire, il faut bien entendu continuer à discuter devant ces aberrations erratiques, les prendre pour ce qu'elles sont, et peut-être aussi les prendre au sérieux, parce que ça peut aller effectivement jusque-là, on l'a déjà vu. Mais derrière, pour nous, il est temps de nous réveiller. Et je vais vous dire les choses très simplement. Ou bien on se réveille, Apolline de Malherbe, ou bien on sera totalement vassalisé et écrabouillé entre ce choc dont je parlais tout à l'heure, entre les États-Unis et la Chine. Il est le temps du réveil de l'Europe.
Vous avez dit, à l'instant, Thierry Breton, je l'ai noté, vous avez dit, il y a un projet pour qu'à 5 ans, on ait retrouvé notre puissance et notre souveraineté. J'y travaille. Vous y travaillez comment?
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai été extrêmement surpris du nombre de personnes qui se sont manifestées après ce qui m'est arrivé à titre personnel. Et donc,
qui sont venus
et on s'est mis quelques-uns à travailler précisément, à proposer, pas pour nous, à proposer. Vous savez, vous avez entendu parler de ce rapport Draghi. Le rapport Draghi, il a été fait évidemment.
Il y a déjà trois ans.
Donc on l'a pris. On s'est dit, il faut maintenant le remettre au goût du jour. Il faut prendre les les chantiers les uns après les autres et dire comment on fait pour être autonome en matière de défense dans les 5 ans? Comment on fait pour pouvoir éventuellement se substituer si jamais on continue à nous faire des menaces dans l'espace informationnel? Comment on fait pour créer un réseau, enfin un réseau social qui soit européen et dont on puisse être sûr qu'il garantisse nos protections individuelles et la démocratie? Comment on fait pour être totalement autonome en matière énergétique sans plus être sensible aux oukases de Monsieur Trump? Donc tout ça, il y a des chantiers, ils sont là, on les a chiffrés, et je vais vous dire une chose, c'est faisable. Alors il faudra évidemment, bien entendu, les proposer.
Ce serait de nouvelles initiatives.
Mais bien entendu.
À 28, à 27, bien entendu, à 8,
au niveau européen. Mais vous savez, on va avoir un rendez-vous important parce que au mois de l'année prochaine, en 2027, donc nos institutions européennes, encore une fois, qui sont ce qu'elles sont, on sait qu'aujourd'hui elles sont vues.
Vous me parlez de 2027, elles... pardon, mais moi je suis incapable de me projeter en 2027. J'ai l'impression que le monde change au jour le jour.
Vous avez parfaitement raison, c'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut commencer tout de suite. Mais je voulais juste vous indiquer peut-être pour nos auditeurs ce matin qu'en 2027, nos institutions européennes, dont les observateurs estiment qu'elles sont très faibles aujourd'hui, ne vise personne, mais c'est une évidence.
Vous partagez, c'est une évidence.
Mais regardez enfin ce qui se passe. Enfin, c'est une évidence malheureusement tous les jours. Ben, vous avez deux des trois institutions qui vont changer de présidence, le Parlement européen, parce que c'est des présidences tournantes, et le Conseil européen. Eh bien, il faut en profiter. Encore une fois, c'est pas les personnes qui sont là. Il faut peut-être aujourd'hui se dire.
Oui, enfin, on peut quand même le dire aussi, Thierry Breton, vous aviez démissionné de votre poste, estimant d'ailleurs que la France n'avait pas tout à fait la place qu'elle méritait dans la nouvelle organisation de la Commission européenne. Et on peut pas dire, et je le dis régulièrement à ce micro, que votre successeur est une présence et une voix qui soit extrêmement entendue.
Eh bien, je pense que ceux qui sont en charge précisément aujourd'hui, et notamment le Parlement européen, doit se poser la question, est-ce que finalement les institutions européennes fonctionnent aujourd'hui dans leur structure?
Quitte à supprimer la Commission telle qu'elle est aujourd'hui?
Celle qui a été arrêtée en 2024, est-ce que le monde de 2024, c'est le monde de 2024? La réponse est non. Est-ce que nos institutions européennes sont adaptées? Vous venez de donner la réponse. Vraisemblablement, pas au monde qui vient. Ils ont encore une fois les moyens, s'ils le souhaitent. Je n'appelle encore une fois personne à la rébellion, mais j'appelle chacun à la responsabilité. Je le dis, ce qui se passe est trop important, trop grave, et vous avez raison sur un point, il faut aller vite.
Il y a la question économique.
Permettre de répondre aux défis. Visiblement, la réponse est non.
Il y a la question économique, il y a la question militaire. Emmanuel Macron qui demande des exercices de l'OTAN au Groenland, mais avec évidemment cette ambiguïté qui est que l'un des principaux membres de l'OTAN, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Il faut quand même essayer d'organiser quelque chose.
Mais bien entendu, et pour une raison très simple, si jamais effectivement le Groenland, dont on découvre d'un seul coup, et je l'aurais dit alors que c'était pas prévu auparavant, elle devient un enjeu absolument géostratégique primordial, eh bien l'OTAN est là précisément pour le protéger. J'ajoute que Pauline de Malherbe, le Groenland est entouré de mers qui sont gelées 10 mois par an, et que pour protéger précisément le Groenland, bien sûr, il faut des avions, il faut des missiles, mais il faut des navires aussi et des brise-glaces. Les États-Unis, hélas, n'ont que 2 brise-glaces polaires. Nous en avons, nous, une quinzaine, la Russie une trentaine. Si jamais, effectivement, les États-Unis souhaitent qu'on les aide, on est prêt à mettre nos brise-glaces à leur disposition dans le cadre de l'OTAN.
Donc, ils n'ont pas besoin d'annexer ou de récupérer le Groenland, ils peuvent juste appuyer sur leurs alliés s'ils nous considéraient comme tels.
Parce que nous sommes, encore une fois, membres de l'OTAN, et que précisément le Danemark aussi.
On a l'impression d'être dans un discours de l'absurde.
Eh oui, eh bien voilà, c'est vous qui le dites, mais vous avez raison, on est dans un discours de l'absurde. Donc, pourquoi finalement, visiblement, les États-Unis, ou plutôt Donald Trump, veut-il tant le Groenland? Moi, je pense que c'est en référence précisément à cette période impériale à laquelle, dans laquelle nous parlions tout à l'heure, celle du président McKinley, 1896-1901. Il était impérial, il voulait accroître les États-Unis territoriales. Le Groenland, c'est 2,2 millions de kilomètres carrés. Moi, je pense que Donald Trump ferait d'un bon œil le fait qu'il a accru, tout simplement,
la surface des États-Unis.
Je pense que, malheureusement, il faut aussi chercher des explications, disons, de la rationalité dans cette irrationalité, peut-être aussi profond précisément que les références historiques
que ce ressort-là
je viens de faire référence.
Pendant ce temps-là, la France,
Le 49.3, le budget, vous regardez ça en vous disant...
Comme les Français, on ne comprend plus très bien ce qu'il y a dans le budget, ce qui n'est pas, où on va, et on dit vivement qu'on passe à autre chose.
Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été mon invité ce matin. Ancien commissaire européen, je cite effectivement Le Grand Continent, cette revue dans laquelle vous signez aujourd'hui vos leçons de ces un an de Donald Trump au pouvoir. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Thierry Breton était mon invité ce matin et il est resté dans ce studio. Rebonjour Thierry Breton.
Bonjour.
L'ancien commissaire européen a entre autres parlé donc du Groenland de Donald Trump, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Et quelqu'un qui vous a bien connu veut rentrer et réagir. Angela Merkel est avec nous.
Bonjour Madame de Merkel. Bonjour à Thierry Breton. Bonjour à tous les Français. Très poli toujours. Je l'ai connu toujours. Très poli, bien appuyé. Bonjour à tous les fans sous-sich. J'ai écouté Thierry Breton, l'actualité, pas rigolo, hein.
Non, pas rigolo.
Mais heureusement, il y a Macron pour sauver l'Europe, et le nouveau Tom Cruise, et avec ses lunettes, et oui, fille, a fait entre Tom Cruise et Jacques Dutronc.
Oui, hein, fille,
il lui chante en boucle à Trump, tu es le plus grand des voleurs, mais t'es pas très gentleman. Oui, ça l'énerve, le Donald, ça l'énerve. Mais il est très beau, Macron, avec ses lunettes sexy. Moi, si j'avais 20 ans de moins... Je souhaiterais mon douche, j'aurais tenté quelque chose.
Ah oui.
Mais voilà, c'est pas grave, je vais me rabattre sur Thierry Breton. Ah. Voilà. Et oui, c'est l'homme providentiel, c'est mon homme à moi. Mais pour la France, il a toutes les qualités. Je serai sa première dame. Il a toutes les qualités. Et il parle anglais couramment. Il est fort en économie, il connaît les chiffres. Et il a l'expérience, si. Il a les cheveux gris.
Oui, c'est vrai. Et
il est authentique. Qui fait pas teindre comme patapouf. Hein, non. Mais même si c'est vrai que pour le voyage de noces, on ne pourra pas partir aux États-Unis, il n'a pas le passeport. Mais c'est pas grave, on ira à Disneyland Paris et on fera un banquet au Buffalo Grill.
Voilà.
Et je sens qu'il se passe quelque chose. Thierry avec moi, il a su briser la glace. Oui. Et déjà, on a 15 brise-glace plus lui, ça fait 16 brise-glace en Europe.
Non, Donald Trump, si vous le voulez bien. Alors, comment peut-on arrêter Trump ?
C'est bon, il va être arrêté, Trump. On a envoyé des soldats au Groenland. Et des soldats allemands, des commandos très sévères, très, très durs. Et à côté de ça, il y a les soldats français pour rigoler de la 7e compagnie au clair des lunes. Ah, j'ai glissé, chef. Et sinon, il y a une autre méthode. Puisque Trump il va à Davos, en Suisse, et on peut peut-être, pour arrêter Trump, lui présenter le prof de ski de Schumacher.
Oh non, c'est pas rigolo. Non, vous pouvez pas.
Je me tape les verges dures. Oh, ça fait des vaguelettes. Comme on dit à Paris, fluctuat nec me verges dures.
Bon, merci en tout cas d'être passé. Ce matin, Thibaut Texer est avec nous pour l'actualité.
Oui, bonjour Apolline. Ici Thibaut Texer, le journaliste dont la voix est surnommée 49.3 parce qu'elle passe toujours en force. C'est parti pour les titres. Nouvelle crise ce matin à Davos après que le président du Portugal ait mangé la dernière part de crème caramel au buffet que convoitait Donald Trump. Celui-ci a menacé d'annexer Lisbonne et de kidnapper Cristiano Ronaldo. Face au nouvel impérialisme de Trump sur le Venezuela, le Canada, Cuba, c'est donc aujourd'hui au tour du Groenland, la terre des pingouins, et cette question, qui va réussir à arrêter la marche de l'empereur ? Et puis, retour en France. Sébastien Lecornu a donc choisi de se renier et d'avoir finalement recours au 49.3. Et c'est Nagui qui souhaitait réagir.
Bonjour Nagui.
Oui, ça...
Salut à tous, bienvenue dans mon émission. N'oubliez pas les paroles. Et c'est Sébastien, notre candidat qui était pourtant bien parti, qui vient d'échouer en dernière semaine, puisqu'il a oublié sa parole. Humour, deuxième degré. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour lui, avec le risque de censure. Il se qualifie d'office pour mon autre émission. Tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Salut, bye bye. Ciao à tous.
Ciao. Merci, Nagui. Pour forcer les Européens à lui vendre le Groenland, Donald Trump a aussi annoncé une hausse des droits de douane. Et pour tenter de mettre fin à ce conflit, on appelle tout de suite Julien Courbet.
Aïe, aïe, aïe. Oui, bonjour à tous, c'est Julien Courbet, bonjour à Pauline, bonjour à Thierry Breton Julien. Qui est venu nous rejoindre ce studio, il est le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non pas au cas d'une personne, chère Pauline, mais carrément, puisque cette émission prend une grande dimension, nous allons nous intéresser carrément au cas du peuple, pardonnez-moi, groenlandais, qui ne souhaite pas vendre son pays, c'est notre dossier, il ne souhaite pas vendre son pays à un certain monsieur, je prends ma fiche, Monsieur Trump, je crois, voilà. Donc nous allons, vous savez ce qu'on va faire, ma chère Apolline, nous allons tout de suite, en régie, appeler ce Monsieur voilà. Trump, on compose le numéro en régie.
Hello.
Oui, monsieur Trump, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Julien Courbet. Désolé, je vous appelle de la part de personnes qui se plaignent. Il semble que vous voudriez acheter un pays qui n'est pas à vendre.
Ok, c'est pas grave. Si je peux pas l'acheter, alors je vais le voler. Si, comme le Venezuela. Non. Et s'il y en a qui sont pas contents, je mets aussi des droits de douane. Du 200%.
Non, écoutez, attendez, monsieur Trump, ne faites pas ça, monsieur Trump. En plus, je vois sur ma fiche que vous êtes dans le commerce et j'ai un de vos petits fournisseurs, qui est un certain monsieur Macron, qui n'est pas content, qui ne voudrait plus vous vendre ses spécialités et produits du terroir.
Oui, je le connais, c'est Emmanuel. Je le connais bien, c'est un chic type, le Tom oui. Cruise, Marc Repère. C'est pas grave s'il veut plus me vendre. Alors non, me passerai de ces Twingo et de ces films chiants avec Vincent Lando. Et vous de votre côté, faudra vous passer de Microsoft et de Google.
Non, écoutez, monsieur Trump, ce n'est pas sérieux, vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, surtout quand le vendeur ne veut plus de vous, ne veut pas
Fake
de vous.
Fake news, tout s'achète. Même le Groenland. Regarde, Courbet. Mélania, elle était froide et elle voulait pas de moi, comme le Groenland. Eh ben, je l'ai acheté quand même.
Non, écoutez, on entend votre position, ça se défend, monsieur Trump. Mais on ne lâche pas le dossier, nous reviendrons vers vous, parce que vous connaissez, chère Apolline, cher Thierry, le slogan de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois.
Des jours. On vous retrouve donc demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Merci à Thierry Breton d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain ?
Eh bien, dans les GG, nous serons avec le cheminot Bruno Poncet, avec le conseiller Antoine Diers. Nous serons avec la prof de français Fatima Hidboudoy et on accueille la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Voilà, restez avec les GG, c'est de 9h à midi. On vous attend au 32-16.